Voilà, alors le temps atmosphérique est tout à fait en harmonie avec ce que nous allons étudier aujourd'hui. Vous avez déjà donc vu un certain nombre de péchés capitaux. Nous poursuivons notre petite étude avec, entre aujourd'hui et demain, donc la jalousie ou l'envie, la colère et puis enfin la paresse, qu'on appelle aussi dans le langage technique de la théologie, l'acédie. Mais je vous en dirai un mot tout à l'heure, ce qu'on appelle dans le langage poétique et populaire aussi le démon de midi. Voilà. Alors, je commencerai donc par la jalousie. Je vous propose d'organiser notre temps ainsi. Donc, je vais essayer de traiter de ces trois péchés capitaux durant les 2 heures prochaines d'enseignement, donc ce matin et puis la première heure demain. Et puis de vous laisser un temps relativement long pour des questions, je dirais un peu de tout genre, enfin à partir du moment où ça concerne évidemment la foi, la vie chrétienne, la morale évangélique. J'avoue avoir quelques lacunes en physique nucléaire, donc vous serez gentil de m'épargner ce genre de questions. Voilà, donc de prévoir un temps long pour les questions. Donc ce serait demain à l'occasion du deuxième enseignement. Bon, même si, voilà, donc ça permettra, comme de toute façon j'aurai pas le temps de tout traiter, ça permettra éventuellement d'aborder tel ou tel point qu'on n'aura pas vu suffisamment précisément. Donc je vous invite déjà un petit peu à réfléchir aux questions que vous pourriez avoir demain, questions que nous aborderons, je n'en doute pas, sous un soleil éclatant. Voilà, alors je commence par un bien vilain défaut, la jalousie. Quand je dis défaut, c'est justement parce que, et c'est très important, je crois que le but de cette session, c'est il faut éviter le syndrome un peu du Larousse médical. Vous savez, hein, vous ouvrez un Larousse médical, ce que tu lis, tu l'as. Hein. Donc le but, c'est pas du tout de se découvrir tous les défauts, tous les péchés du monde, mais c'est simplement de comprendre à la lumière de la révélation, à la lumière de la sagesse chrétienne, de la réflexion humaine éclairée par la foi, de comprendre ce que c'est un homme. Voilà. Et donc de mieux comprendre aussi, eh bien, nos réactions face aux différents stimuli que nous recevons du monde qui nous entoure, et comment, au fond, nous sommes invités à nous construire, ou plutôt à laisser la grâce nous construire. Parce qu'évidemment, et pour chaque péché capital, je développerai surtout, ben, en quelque sorte, la thérapie psychologique, mais surtout spirituelle, à mettre en œuvre pour ou bien vivre avec, ou bien lutter, hein, très, très frontalement, très, très directement, contre tel ou tel péché, tel ou tel défaut, ce qu'on appelle aussi en langage toujours de la théologie, mais tel ou tel vice. Et c'est souvent justement en grandissant dans la vertu qui lui est opposée. La perspective, évidemment, ce n'est pas une perspective d'abord thérapeutique, c'est-à-dire de voir la religion comme un complément, en quelque sorte, hein, ce qui nous permettrait de mieux vivre, un principe de développement personnel, comme on dit aujourd'hui, hein, si vous allez à la FNAC, si vous voyez le rayon développement personnel, c'est vraiment fascinant, enfin, souvent aussi fascinant de bêtises, mais bon. Et non, le but, évidemment, de la vie chrétienne, parce que nous sommes d'abord des chrétiens, eh bien, c'est cette vie d'amitié avec le Christ. C'est la vie de la foi. Et le fait de vivre dans cette compagnie du Christ, par la grâce sacramentelle, par la vie chrétienne, eh bien, nous donne aussi, eh bien, d'accueillir, pour reprendre une expression de Jean Vanier, d'accueillir notre humanité, d'accepter notre humanité. De découvrir que si Dieu s'est fait homme, c'est pas pour sauver notre rêve, mais c'est pour sauver notre réalité. Avec tout ce qu'elle comporte de beau, de blessé, d'abîmé. C'est que ce sont autant d'occasions pour nous de découvrir, lorsque nous faisons le triste constat de notre humanité blessée, eh bien c'est absolument pas de nous conduire au découragement. Mais c'est au contraire de découvrir à quel point nous avons besoin d'être sauvés. Et la difficulté est très grande parce que on peut dire que d'une certaine façon, ce qu'on appelle la modernité ou la post-modernité, c'est construite contre l'idée du salut. Or, ce qui est fondamental dans le christianisme, c'est la notion de salut. J'ai radicalement besoin d'être sauvé. Mais le sujet de ce salut, c'est toute ma personne, hein, corps et âme, passion et action, tout ce qui fait ma réalité. Alors, je m'excuse de commencer de façon un petit peu abrupte, mais je crois très important, bah, parce que nous sommes entre chrétiens, eh bien de bien noter cela. Georges Bernanos disait dans l'Église, il y a une seule chose, il n'y a qu'une seule réalité qui soit vraiment intéressante, c'est Jésus-Christ. L'Église, ce n'est rien d'autre que le développement de la vie de Jésus-Christ en nous. Alors, et ensuite, le péché capital, eh bien, c'est découvrir donc ces blessures qui nous poussent au péché et que nous recevons, ben, en même temps que nous recevons une nature humaine. Voilà, nous ne recevons pas une nature indemne, mais à partir du moment où nous apparaissons, eh bien, nous sommes marqués par ce qu'on appelle ce péché originel, qui n'est, comme dit le Concile de Trente, qui n'est pas un péché au sens technique du terme ou strict du terme, c'est une expression analogique, mais ça veut dire que nous héritons de nos premiers parents un état de faiblesse générale qui fait que de nous-mêmes et laissés à nos propres forces, nous ne pouvons que tomber dans le mal. Alors certes, on peut éviter tel péché, parce que nous sommes des êtres libres et que notre liberté n'a pas été annihilée, n'a pas été supprimée complètement par la chute originelle. Mais si on fait la somme de tout, on ne peut pas ne pas tomber un jour dans un péché grave. Voilà, c'est une vérité fondamentale du christianisme. Sinon, encore une fois, nous faisons du christianisme avec un petit complément. Nous pouvons nous-mêmes nous sauver. Et voilà, c'est plus facile avec Jésus, avec non pas simplement la grâce de Jésus, mais avec l'exemple de Jésus. Voilà. Eh bien, la foi chrétienne, c'est de dire, comme nous le rappelle saint Augustin, mais que le salut ne réside pas dans l'exemple de Jésus. Voilà, Jésus a fait comme ça, alors il faut faire pareil. Une sorte de héros qui aurait parfaitement accompli son humanité, et donc de nous-mêmes, nous pouvons aussi accomplir notre humanité et parvenir au salut. Non, nous avons radicalement besoin de Jésus. Et je pense que une des raisons de la crise assez grave ou très grave que nous connaissons, y compris en tout cas qu'il y a des répercussions dans l'Église aujourd'hui, enfin en tout cas au moins en Occident et singulièrement en France, eh bien, c'est peut-être aussi que ça a été peut-être voulu par Dieu, ou en tout cas permis par Dieu, pour que nous puissions redécouvrir à quel point nous avons besoin du Christ. Voilà, que le Christ est notre seule et authentique richesse. Autre point donc dans cette introduction, là je ne fais que rappeler des choses qui vous sont bien connues, mais la distinction fondamentale n'est pas, le péché capital ne structure pas, la considération sur le péché capital ne structure pas tout le discours moral de l'Église. Je veux dire par là que la distinction la plus fondamentale, c'est la distinction traditionnelle entre péché grave, hein, ou ce qu'on appelle aussi péché mortel, et péché véniel. C'est parce que c'est ça qui, pour notre vie morale, est décisif, de savoir distinguer. Le péché mortel, c'est un péché qui tue la vie de la grâce en nous. Voilà. Donc vous connaissez les critères classiques, hein, il faut une matière grave, entier consentement et pleine liberté. Bon. C'est toujours très difficile parfois de distinguer l'un de l'autre, hein, comme pour l'état de grâce. Vous connaissez la fameuse réponse de Sainte Jeanne d'Arc quand on lui demandait à son procès si elle était en état de grâce, hein, et sa réponse, si j'y suis pas, que Dieu m'y mette, si j'y suis, que Dieu m'y garde. Il y a quelques indices que nous sommes en état de grâce, mais nul n'est assuré de son salut. Il y a comme une vigilance à avoir tout au long de notre vie. Non pas du tout que nous doutions de Dieu, mais nous avons en revanche un peu à douter de nous-mêmes. Et la présomption est un défaut, voire un péché très grave. Donc justement, il faut équilibrer la présomption ou rééquilibrer la présomption par la vertu de confiance, de foi en Dieu. Dieu qui nous aime et qui nous donne les moyens de vivre de sa présence. Voilà, s'il fallait résumer le christianisme et la morale chrétienne, nous pourrions le faire dans cette formule. Alors les péchés capitaux sont quand même très intéressant d'abord parce qu'on ne va pas arrêter la session tout de suite, et parce que justement ça nous donne de mieux nous connaître, hein, de savoir les champs de bataille que nous avons à affronter. Alors c'est assez difficile de cumuler tous les péchés capitaux, mais de savoir, et ça je pense qu'on a dû déjà vous le dire, qu'un péché capital n'est pas obligatoirement un péché qui soit matériellement très grave ou le plus grave. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, par exemple, il n'y a pas l'orgueil, qui est le péché le plus grave, comme disait, je crois, Bossuet. Hein. Ici, il y a l'orgueil. Oui. Alors voilà, alors c'est le plus, retenez bien que c'est le plus grave. Parce que, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut distinguer entre le péché en tant que tel et le péché capital. Parce que le péché capital, on peut l'assimiler à ce qu'on appelle un vice, c'est-à-dire c'est un péché qui va entraîner beaucoup d'autres. Et à ce titre, capital, ça veut dire c'est la tête, hein, et qu'il va, dans sa dépendance, hein, un péché capital qui moralement peut ne pas, qu'on peut estimer pas trop grave, mais risque fort d'en entraîner beaucoup d'autres. Hein. Comme disait un célèbre prédicateur au XVIIIe siècle, hein, mes frères, je ne saurais trop vous déconseiller le meurtre, car ce premier péché vous conduirait au mensonge et à la dissimulation. Hein, donc il y a un besoin de hiérarchiser les péchés, et donc la sagesse chrétienne a élaboré donc cette théorie, mais qui part du réel, de l'observation spirituelle de l'homme, spécialement d'ailleurs dans un climat de type monastique, eh bien, a pu considérer l'ensemble de ces péchés comme devant en entraîner d'autres. De même que les vertus, parce que je serais pas mal appelé à parler des vertus, ce qu'on appelle les vertus morales ou encore les vertus cardinales. Pourquoi les appelle-t-on cardinales? Non pas parce qu'elles se promènent avec un chapeau rouge et qu'elles élisent le pape, mais parce que cardinal signifie, ça vient du latin cardo, qui signifie le gond, le pivot de la porte, et qu'au fond, toute la vie morale du chrétien pivote ou se structure autour des quatre vertus cardinales, auxquelles évidemment viennent s'ajouter et viennent parfaire les trois vertus théologales, donc de foi, d'espérance et de charité. Et voilà pourquoi je serai aussi dans la thérapie, dans la stratégie de salut à mettre en œuvre, dans ce chemin de guérison que nous propose le Christ, eh bien évidemment, je serai amené à parler spécialement des vertus. Voilà. Alors, il y a donc différentes manières de classer les péchés. Donc, comme je vous ai dit, la distinction la plus fondamentale, c'est entre péché mortel et péché véniel. D'après aussi l'objet, hein, il y a aussi des péchés spirituels et les péchés charnels. Donc, les péchés charnels, c'est tout ce qui concerne la satisfaction de nos sens, et les péchés spirituels, qui sont plus graves, eux concernent tous les biens de l'esprit. Justement, l'orgueil, hein, c'est vraiment le péché spirituel par excellence. Et puis, on peut aussi considérer, hein, quand on fait son examen de conscience, hein, ceux à qui on fait du mal, si je puis dire. Et ça, c'est en général aux enfants, quand on leur apprend comment faire un bon examen de conscience, et c'est une réalité, une manière de faire que l'on peut poursuivre. Hein, la manière classique, c'est les péchés contre Dieu, même si ultimement, tout péché est contre Dieu, mais il y a des péchés qui visent directement Dieu, tout ce qui touche la vie de prière, la vie spirituelle, la reconnaissance de l'autorité de Dieu sur toute chose, etc. Les péchés contre le prochain, hein, tout ce qui regarde la vertu de justice, puisque la vertu de justice traite nos relations avec le prochain. Et puis enfin, contre soi-même, hein, tout ce qui, au fond, nous empêche de nous épanouir, de grandir et de nous épanouir comme enfants de Dieu. Tout ce qui est la fidélité, ou plutôt justement l'infidélité à la grâce baptismale que nous avons tous reçue. D'après aussi la cause, hein, voilà, donc on va distinguer entre le péché originel, donc qui est cet état de nature blessée que nous recevons de nos premiers parents, et le péché actuel. C'est le péché, si je puis dire, très concret que moi je commets. Avec aussi une attention toute particulière aux circonstances. Ça, c'est aussi très important. Lorsque vous vous confessez, vous avez pu vivre cette expérience hier, mais parfois le confesseur est amené à poser des questions, non pas par une curiosité mal placée, mais justement pour estimer les circonstances. Parce que, comme vous le savez, il y a des circonstances aggravantes et il y a aussi des circonstances excusantes, hein, ou atténuantes, hein, qui fait que, ben voilà, je prends un exemple très simple, non pas que ce soit bien, mais quelqu'un qui est colérique de nature, qui a hérité cette blessure comme péché capital, eh bien s'il se met en colère, évidemment, c'est très mal, mais il est plus excusable que quelqu'un qui a une nature plutôt plutôt calme et paisible, mais qui va se mettre, si je puis dire, volontairement en colère pour tuer quelqu'un. Enfin, là, vraiment, on peut penser qu'il y a effectivement péché mortel, parce qu'il y a vraiment une volonté délibérée de nuire. Alors, il faut toujours observer les circonstances. Sachant aussi que, évidemment, chaque péché constitue toujours une offense à Dieu, ultimement. Hein, c'est même ça la définition du péché, c'est d'aller contre la volonté de Dieu. Et introduit aussi un désordre dans le monde. Alors ça, on en a peut-être moins conscience, alors sauf si vraiment on fait quelque chose qui est repérable et qui sera punissable, on peut provoquer une catastrophe, donc là il est bien évident qu'on a conscience des conséquences mauvaises sur l'ensemble de la communauté humaine, mais je dirais tout péché introduit toujours un désordre dans le monde. Par cette solidarité qui existe entre les hommes et qui fait que nous sommes solidaires de notre premier, de notre père à tous, hein, Adam, sachant que voilà, il y a eu dans l'histoire humaine cette humanité qui est sortie sainte des mains de Dieu, et eh bien racontée de manière évidemment imagée dans les premiers chapitres de la Genèse, mais le fond de l'histoire, c'est quoi? Quelle est la vérité de foi qui nous est révélée à travers un texte évidemment imagé? Eh bien, c'est que l'homme qui a été créé dans l'amitié avec Dieu, de sa propre initiative, en raison justement de la suggestion du démon, mais l'homme a cassé cette relation avec Dieu et a donc dû en assumer les conséquences. C'est que lorsque l'homme perd cette relation de confiance et d'amour avec Dieu, eh bien, il y a des conséquences. Sa nature, qui justement a été créée pour Dieu, eh bien, doit assumer un certain nombre de conséquences dont, si je puis dire, nous souffrons actuellement, mais comme nous le rappelle l'exultet de la vigile pascale, hein, « Ô bienheureuse faute qui nous valut un tel sauveur hein, ». C'est que Dieu a saisi, dès le début de la Genèse, enfin, le chapitre 3 de la Genèse, saisi cette occasion pour non seulement nous réparer, mais nous relever et nous communiquer sa propre vie. Alors, donc, il y a cette solidarité qui existe entre tous les hommes et qui fait que, eh bien, lorsque nous faisons le mal, même sans que personne ne le sache, eh bien, nous contribuons à rendre, si je puis dire, l'atmosphère un peu plus irrespirable sur cette terre. Il y a une solidarité de l'homme, parce que nous avons tous la même nature, qui fait que, voilà, comme le dit je ne sais plus qui, hein, une âme qui s'abaisse, abaisse le monde, mais aussi une âme qui s'élève, élève le monde. Et que le Christ est venu substituer à cette solidarité du mal, une solidarité du bien, hein, qui fait que ce que Jésus a fait, l'effet de grâce que Jésus, des actes de Jésus, et singulièrement de sa passion, eh bien, nous en bénéficions aujourd'hui, hein, par le ministère de l'Église. Mais, voilà. Et donc, du coup, à chaque fois que nous faisons un acte, comme on dit, méritoire, à chaque fois que nous essayons d'être fidèles à l'Évangile, nous contribuons à notre sanctification personnelle, mais nous contribuons aussi, si je puis dire, à améliorer la situation dans le monde. C'est pour ça que le monde, et ça on ne le découvrira que dans la vie éternelle, mais dans la vie éternelle, nous découvrirons tout ce que nous devons, par exemple, à la prière des contemplatifs, à la prière de tous ces baptisés qui s'enferment dans un couvent, qui n'ont aucune utilité sociale, hein, ce sont des en régime marxiste ou du temps de la philosophie des Lumières, on présentait les religieux comme des parasites. Hein, pourquoi ? Ben parce qu'ils ne sont d'aucune utilité pour la société. Ils ne font pas de famille, ils ne font pas de commerce, en gros, c'était ça les critères. Et donc, eh bien, par leur vie donnée, si évidemment ils y sont fidèles, parce qu'il n'y a aucune automaticité, mais à partir du moment où un religieux est fidèle à sa vocation, qui est essentiellement une vocation de prière et de conversion, eh bien, il a beau être au fin fond du désert, comme les premiers moines, eh bien, il contribue à sauver le monde. Il entre dans ce vaste courant d'amour que le Christ a institué, et qui fait que, à partir de la prière de ses vies données, eh bien, Jésus sauve le monde. Alors ça, encore une fois, nous ne le voyons pas, mais c'est une vérité pour nous, c'est une vérité de foi. Et ce qui est vrai pour les moines vaut pour chacun d'entre nous. À chaque fois que nous essayons d'être fidèles à notre devoir d'État, de le faire avec le plus d'amour possible, que ce soit familial, professionnel, social, politique ou que sais-je encore, eh bien, nous contribuons à rendre, encore une fois, l'atmosphère de ce monde un peu plus respirable. Alors, pour notre sujet, donc, on va parler de différents types d'indifférence ou de jalousie. Alors voilà, je vais parler de choses très, très désagréables, mais attirer votre attention sur le fait qu'il faut distinguer entre la jalousie et l'envie. Alors les deux sont très vilains, hein, il y en a un qui est plus vilain que l'autre. La jalousie... Alors pourquoi la jalousie est positive? C'est que la jalousie, on ne s'afflige pas du bien que fait le voisin. Mais on regrette énormément que ce bien ne soit pas nôtre. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi un amour passionné pour un bien qui... Et voilà, donc nous refusons absolument le partage. Quand nous l'avons, alors on peut dire que ça, c'est assez proche de l'avarice de ce point de vue-là. Hein, mais non, c'est à moi. Mon or, c'est mon or, et mon or, c'est mon argent, comme disait l'autre. Alors, l'envie est bien pire parce qu'elle est toujours un péché. C'est l'envie, s'il fallait résumer dans une formule, c'est voir d'un mauvais œil le bien du prochain. Et donc de s'en affliger parce qu'on y voit comme une atteinte portée à une supériorité que l'on veut pour soi. Voilà, c'est ça la distinction fondamentale. Alors dans le traité de l'amour de Dieu, alors je ferai quelques références à saint François de Sales. D'abord parce que vous le savez peut-être, cela fait partie de notre, en tant que serviteur de Jésus et de Marie, de notre patrimoine spirituel. Nous avons en plus du Père Lamy deux maîtres spirituels, saint François de Sales et saint Bernard. Bon, même si saint François de Sales c'est le patrimoine de toute l'Église, puisqu'il est non seulement saint, mais en plus docteur de l'Église, ça veut dire que sa doctrine peut nous éclairer. Et singulièrement, ce qui est très caractéristique chez saint François de Sales, c'est que c'est d'abord et avant tout un directeur d'âme. Et en tant qu'évêque, il n'a eu de cesse que de permettre aux fidèles à qui il s'adressait de grandir dans l'amour de Dieu, parce que c'est ça le but de la direction spirituelle, et donc de les éclairer sur leur chemin, en écartant les obstacles, en éclairant sur les combats à mener, et en ayant par-dessus tout toujours un regard de confiance. Voilà. Notre Dieu est le Dieu du cœur humain, dit-il par exemple à certains endroits. Et ce qui est très caractéristique de saint François de Sales, et pour nous c'est peut-être un exemple, c'est qu'il a ce même souci, quels que soient ses fidèles. Il a été évêque d'un des diocèses les plus pauvres de France, qui était le diocèse de Genève, mais comme c'était tout de suite après la Réforme, il avait le titre d'évêque de Genève, mais évidemment, il n'y résidait pas, il résidait à Annecy, un diocèse de haute montagne, comme vous le savez. Quand il a entrepris la visite pastorale de toutes les paroisses de son diocèse, certaines paroisses n'avaient même pas vu des prêtres depuis une ou deux générations. Et à la fois, Saint François de Sales, qui était par ailleurs d'une famille aristocratique, était en lien et en contact avec tout ce que le royaume de France, même si à l'époque la Savoie était autonome, mais tout ce que le royaume de France comptait en tête couronnée, puisque c'était un ami d'Henri IV. Henri IV voulait même en faire l'évêque de Paris et il a refusé. Et il a fondé une congrégation avec l'ordre de la visitation, vraiment avec des âmes spirituelles d'élite, etc., etc., etc. Mais on voit chez saint François de Sales ce souci constant d'aider tous les baptisés qui s'adressent à lui. Et ça, c'est pour ça que c'est vraiment le modèle du pasteur. Au XVIe siècle, il y a deux grands modèles de pasteurs, c'est saint François de Sales et saint Charles Borromée, qui sont deux saints évêques qui ont... Alors, Saint-Charles Borromée, lui, était évêque de Milan, qui est quand même le premier diocèse en importance de la chrétienté. Bon, mais, justement, l'un et l'autre n'ont eu de cesse que de convertir, d'appeler à la conversion, de réformer leur clergé et d'apprendre aux fidèles par le catéchisme. Hein, c'est la grande époque aussi où s'organise la formation catéchétique systématique, et pas simplement pour les enfants. Eh bien, où on cherche absolument à éduquer les fidèles dans la foi, après toute la crise des guerres de religion. Alors, donc, saint François de Sales a écrit deux chefs-d'œuvre, l'Introduction à la vie dévote, qui était un best-seller de son époque, et puis le Traité de l'amour de Dieu, hein, qui est son chef-d'œuvre. Et le Traité de l'amour de Dieu montre comment, justement, l'amour de Dieu, la grâce, grandit dans la vie du fidèle. C'est une la biographie de la plus grande des saintes, Sainte Charité. Et de montrer comment elle grandit, elle s'affermit, elle doit se défendre contre ses ennemis, éventuellement elle peut disparaître et elle peut renaître, et elle s'épanouit jusque dans la vie éternelle. Alors justement, il a tout un chapitre sur comment l'amour de Dieu produit le zèle. Parce que saint François de Sales a toujours le souci d'aider à discerner, hein, de bien discerner ce qui est du défaut et ce qui est du péché, par exemple. Et voilà ce qu'il dit à propos de l'amour. C'est le chapitre 12 du livre 10e du traité de l'amour de Dieu. Comme l'amour tend au bien de la chose aimée, ou s'y complaisant si elle l'a, ou le lui désirant et pourchassant si elle ne l'a pas, aussi il produit la haine par laquelle il fuit le mal contraire à la chose aimée, ou désirant et pourchassant de l'éloigner d'Icelle si elle l'a déjà, ou le divertissant et empêchant de venir si elle ne l'a pas encore. Ça, c'est du français du XVIe siècle, donc c'est pas tout à fait évident. Je vous le dis en deux mots, hein, c'est que je pense qu'on a dû vous parler des passions. La passion, qui n'a rien de négatif, hein, la passion, c'est ce que nous subissons. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose d'aimable, dès que notre intelligence nous révèle qu'il y a quelque chose d'aimable autour de nous, nous le désirons. Nous sommes portés. C'est le premier mouvement de la volonté, pardon, c'est un mouvement d'amour, hein, de désir. Ce qu'il y a de plus fondamental dans l'être humain, un être humain se construit d'abord par son désir. Ça, on n'a pas attendu la psychanalyse pour dire ça. C'est une réalité qui appartient à la psychologie chrétienne, si je puis dire, depuis les débuts. En revanche, quand l'intelligence nous révèle quelque chose qui nous est désagréable, eh bien, nous avons tout de suite un mouvement de fuite. Alors, l'idée de saint François de Sales, c'est de dire « nous devenons ce que nous désirons ». Donc, le but de la rééducation spirituelle que nous avons tous à faire, c'est d'apprendre à aimer les choses qui, peut-être, d'apparence, ne nous paraissent pas extraordinaires, mais l'intelligence de la foi nous dit « si, ça vaut la peine ». Voilà. Saint François de Sales commence le traité de l'amour de Dieu en disant le traité de l'introduction à la vie dévote en disant, alors la vie dévote, le terme de dévotion est aujourd'hui très galvaudé et très, pour Saint François de Sales, la dévotion c'est la perfection qui a atteint sa pleine maturité. Voilà, c'est l'introduction à la vie dévote, c'est l'introduction à une vie chrétienne, je dirais adulte, hein, c'est-à-dire qui sache utiliser au mieux les moyens surnaturels que Dieu nous donne. Et ça va jusque, il entre dans les moindres détails de la vie domestique et, ou sociale. Alors évidemment, il y a des choses qui peuvent nous paraître aujourd'hui un petit peu dépassées, mais en son fond, c'est vraiment ça. Hein, c'est de grandir, c'est d'arriver à l'âge adulte de la vie baptismale. Alors voilà ce qu'il dit. « Quand donc nous aimons ardemment les choses mondaines et temporelles, la beauté, les honneurs, les richesses, les rangs, hein, » il parle à une société qui est encore une société très hiérarchisée, hein, la société du XVIe siècle, ce zèle, c'est-à-dire l'ardeur de cet amour, se termine pour l'ordinaire en envie, parce que ces basses choses sont si petites, particulières, bornées, finies et imparfaites, que quand l'un les possède, l'autre ne les peut entièrement posséder. Ça, c'est le principe des biens matériels. Voilà. Si j'ai mon bouquin, si je vous le passe, ben, c'est un acte de générosité, mais j'aurai plus mon livre. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la place d'un autre. Moi, je ne peux pas prendre mon petit déjeuner à la place d'un autre. C'est pas possible. En revanche, lorsque je grandis dans l'amour des biens spirituels, plus je les communique, plus ils grandissent en moi. Alors, ce que nous dit saint François de Sales, c'est eh bien, que votre affectivité... Voilà. Il ne s'agit pas de nier l'affectivité, il ne s'agit pas de nier les passions, il s'agit de les rééduquer. Elles sont blessées par le péché, elles sont déformées, on ne va pas les nier. Alors ça, c'est très important dans l'éducation. Monsieur, je pars sur un autre domaine, mais qui m'intéresse un petit peu. L'éducation, si vous niez les passions, hein, si vous cherchez à les contraindre, eh bien un jour, ça va exploser. Saint Thomas d'Aquin dit, certes, les passions doivent être régies par la raison, hein, c'est même, on va dire, l'idéal philosophique, mais l'autorité que l'intelligence a sur les passions doit être une autorité de type politique et non pas despotique. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il est beaucoup plus intelligent, enfin la raison, qui est normalement intelligente, doit apprendre à utiliser, à finaliser, à comment dire, canaliser les passions, mais non pas à les nier. Parce que si vous les niez, encore une fois, un jour ça va exploser. Vous allez faire des névropathes, et vous allez faire de vos enfants des névropathes, et un jour, ça va exploser. En revanche, si vous laissez les passions s'exprimer, on le verra très bien, par exemple, à propos de la colère, eh bien, vous faites d'affreux petits tyrans de vos enfants. Hein, s'ils n'apprennent pas à résister à leurs passions, Hein, justement, s'ils n'apprennent pas eux-mêmes à canaliser. Au fond, la passion, c'est très proche de ce qu'on appelle aujourd'hui l'instinct, en psychologie contemporaine, moderne. C'est cette pulsion de vie, ou même la pulsion de vie, qui certes est bien réelle, qu'il ne faut pas nier, qui est liée à notre nature incarnée, mais qu'il faut apprendre à canaliser. C'est ça le but de l'éducation, pour lui donner une finalité qui en vaut la peine. Est-ce que c'est clair juste là? Alors voilà, je termine avec Saint François de Sales. L'envie est toujours injuste, mais la jalousie est quelquefois juste, pourvu qu'elle soit modérée. Car les mariés, par exemple, n'ont-ils pas raison d'empêcher que leur amitié ne reçoive diminution par le partage? Vous voyez, on parle de la jalousie dans le mariage. Alors, le risque de la jalousie dans le mariage, c'est pour le coup de faire de l'autre justement un objet. Hein, c'est à moi, ça m'appartient. Alors là, évidemment, c'est profondément dévoyé. Mais le fait de vouloir, que l'un et l'autre respectent, soient jaloux du respect de la parole donnée, là, c'est une réalité évidemment éminemment positive. Et on le verra d'ailleurs comment dans la Bible, on parle de Dieu comme un Dieu jaloux. Alors, il ne faut pas trop dire, hurler, ah oui, mais ça c'est de l'anthropomorphisme. Non, il y a une réalité très profonde là-dedans. Pourquoi Dieu nous est-il présenté par les auteurs inspirés, c'est-à-dire par le Saint-Esprit ultimement, puisque c'est lui qui inspire l'Écriture sainte, comme un Dieu jaloux? Ça veut donc dire qu'il y a une valeur positive. Par l'envie, nous nous attristons que le prochain est un bien plus grand ou pareil au nôtre, encore qu'il ne nous ôte rien de ce que nous avons. En quoi l'envie est déraisonnable, nous faisant estimer que le bien du prochain soit notre mal. Hein, comme dit l'autre, il ne suffit pas encore d'être heureux, il faut encore que les autres soient malheureux. Hein, donc si les autres sont heureux, on n'aime pas. Ben voilà. Ça, pour le coup, c'est vraiment un péché. Hein, la jalousie procède de l'amour, l'envie au contraire provient du manquement d'amour. Je vous laisse méditer ça. Vous avez 3 heures, je ramasse les copies à la fin. Donc bien distinguer ce qui est de l'amour de la jalousie. Pour citer un philosophe, Émile Faguet, l'envie verdâtre est le fond de notre nature humaine. Voilà. Alors, premier point après cette toute brève introduction, donc les ravages de l'envie ou de la jalousie, spécialement dans la Bible. Alors, le grand texte fondamental, c'est le livre de la Sagesse, qui fait toute une relecture de l'histoire sainte. Hein, donc la sagesse, c'est Dieu en tant qu'il se communique aux hommes, en tant que justement il nous fait participer à son intelligence, ce que nous après en régime chrétien nous appelons la foi. Donc le chapitre 2 et les versets 23 à 24. C'est un verset tout à fait fondamental pour l'anthropologie chrétienne. Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature. Donc là, évidemment, en écho, c'est le récit de la création. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde, ils en font l'expérience ceux qui lui appartiennent. Qu'est-ce qui a fait que le péché originel est arrivé? Certes, il y a eu la complicité de l'homme, mais en première instance, si je puis dire, l'auteur de tout cela, c'est le diable. Et c'est sa jalousie envers l'homme. Pourquoi? Parce que lui, il sait déjà, le démon, que sa vie est un échec, hein, qu'il a quand même bien raté sa vocation, et il n'a de cesse que de faire partager son échec à d'autres créatures, à savoir l'homme. C'est pour ça que Jésus, dans l'Évangile, nous dit, le démon, il le dit, c'est l'homicide dès l'origine. Le démon, dès l'origine, c'est-à-dire dès l'apparition de l'homme, n'a de cesse que de faire échouer le plan de Dieu. Là, vous avez vraiment l'exemple de ce qu'est l'envie. Je suis malheureux, mais mon seul bonheur, entre guillemets, c'est de faire que le plus possible soit malheureux comme moi. Donc le démon ne supporte pas la bonté divine qui se révèle dans sa création. Il est abîmé et il n'a de cesse que d'abîmer les autres. Un autre exemple, évidemment, d'envie, et ça dès l'origine, c'est l'épisode de Caïn et d'Abel. Vous verrez dans le chapitre 4 de la Genèse, où on voit au fond cette cascade de mal, à partir du moment où le lien est rompu entre Dieu et l'homme, eh bien le lien est rompu aussi entre les hommes. Et nous avons donc cette situation, qui est encore, il suffit d'écouter la radio, et nous nous rendons bien compte qu'aujourd'hui nous sommes sous ce régime de mal en cascade. Il ne se réjouit pas de la bénédiction dont Abel bénéficie. Alors, Alors c'est vrai qu'il y a, et il y a cet appel à la responsabilité que Dieu lui fait en disant, ben, le mal est comme une bête tapie à ta porte, vas-tu lui ouvrir? Donc Dieu met Caïn devant sa responsabilité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attire Abel dans un guet-apens, il le tue, il y a cette phrase extraordinaire après, hein, quand Dieu lui dit, qu'as-tu fait de ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Eh bien oui, tu es le gardien de ton frère. Le sang d'Abel, hein, crie vers moi, crie vengeance vers moi, dit Dieu. Si vous allez un petit peu plus loin dans la Genèse, vous trouvez au chapitre 37 l'exemple de Joseph vendu par ses frères, hein, donc le dernier fils de Jacob. Alors il faut dire, il a un côté, premier de la classe qui est franchement désagréable. Hein, Joseph, c'est quand même le modèle de la tête à claque, quoi. Il commence à expliquer à ses frères qu'il a fait un rêve et que ses frères étaient comme des étoiles qui s'inclinaient tous vers lui. Enfin, vraiment, que des trucs. Alors, déjà, c'est le petit chouchou de son papa. Mais en plus, donc voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même des circonstances atténuantes à ça. Et donc, vous connaissez l'épisode. Voici l'homme au songe. Hein, et ils lui font un mauvais sort. Et bon, l'histoire finit bien. Mais voilà, on voit très bien comment la jalousie enferme dans la haine. L'hostilité, ou encore une fois, l'histoire de que vous trouvez dans le premier livre de Samuel au chapitre 18, les versets 9 et 29, hein, l'histoire de Saül, donc le premier roi d'Israël, qui va jalouser David, hein, parce qu'à David, tout lui réussit. Et évidemment, là aussi, alors là, David n'y est pour rien, parce que c'est justement au contraire le modèle de la loyauté, mais voilà, quand les femmes se mettent à chanter « Saül a tué ses 1000 », c'est-à-dire ses 1000 philistins, « David en a tué ses 10 000 », évidemment, ça fâche aussi un peu. Tout ça pour dire que la jalousie a des racines très profondes en nous, hein, et qu'il faut en être conscient, et que le but, ben, c'est justement la thérapie à mettre en œuvre, c'est de nous apprendre à nous réjouir du bien, quel que soit celui qui... Parce que l'important, c'est que le bien se réalise, voilà. Mais ça, je vais y venir dans un instant. Dans l'Évangile, ben, c'est la jalousie, par exemple, le motif, donc en Saint Marc, le chapitre 15, verset 10, Ponce Pilate cherche à faire libérer Jésus, hein, son motif, c'est de penser, hein, nous dit l'évangéliste, il sentait bien que c'était par jalousie que les grands prêtres avaient livré Jésus. Hein, donc il y a aussi ce phénomène de jalousie, de ce rabbi, qui se prétend le Messie, et du coup, ben, il faut dire là aussi que Jésus n'avait rien fait pour arranger sa situation, hein. On voit les apostrophes, d'ailleurs pas tant aux grands prêtres, mais surtout aux pharisiens. Hein, quand il dit le grand reproche que Jésus fait aux pharisiens, c'est « voilà, vous n'entrez pas et vous empêchez les autres d'entrer ». Ça, c'est vraiment le cléricalisme dans toute son horreur. C'est d'avoir une situation d'autorité qui est usurpée, parce que justement, s'il existe un sacerdoce ou une chaire d'enseignement, puisque les pharisiens avaient surtout mission d'enseignement, eh bien, c'est justement pour faire bénéficier les autres de votre enseignement, du fait que vous êtes un spécialiste en Écriture sainte, et donc que vous devez apprendre au peuple à être fidèle à la loi du Seigneur. Et le grand reproche que Dieu fait au roi, mais aussi aux prêtres, par exemple dans le prophète Ézéchiel, c'est, voilà, vous payez sur la bête, en quelque sorte, hein, vous touchez les revenus du temple, mais, pour reprendre l'expression de Jésus, vous n'entrez pas et vous empêchez les autres d'entrer. Voilà. Et donc, évidemment, ça provoque chez les contradicteurs de Jésus une haine et une jalousie très grande. Parce que, justement, en Jésus, il n'y a aucune prise à la critique. Et la preuve, c'est qu'il faudra déformer ses propos pour pouvoir le faire condamner. Ou le faire condamner pour un motif tout à fait extravagant. Alors, l'épître aux Galates, hein, au chapitre 5, verset 21, qu'est-ce que produit la chair, la haine, la discorde, la jalousie? Et tout cela est incompatible avec le royaume de Dieu. Alors, chez saint Paul, lorsque l'on parle de chair, il ne s'agit pas du tout des péchés d'ordre sexuel, par exemple. La chair désigne chez saint Paul la nature humaine en tant qu'elle est laissée à ses propres forces, en tant qu'elle n'a pas justement été vivifiée, revitalisée par l'Esprit du Seigneur. Et quand il parle de l'esprit, ce n'est pas du tout une vision désincarnée, ce serait un comble, hein, mais c'est une vision justement d'une création qui est enfin rendue à Dieu, qui est sanctifiée par l'esprit du ressuscité et qui enfin est remis dans, si je puis dire, dans son axe véritable. Donc voilà un petit peu, bon, un petit parcours biblique, mais vous voyez que c'est très clairement que la jalousie est très clairement et l'envie décrite, y compris dans ses funestes conséquences, et au fond, la jalousie hein, qui a crucifié le Fils de Dieu. Alors, deuxième point, les causes et les conséquences... Enfin, oui, alors justement, c'est très compliqué à voir, causes et conséquences de la jalousie, parce qu'il y a un phénomène un peu d'entraînement et d'aller-retour. Au fond, on peut dire qu'à l'origine de l'envie, il y a l'orgueil. C'est-à-dire l'incapacité de se réjouir du bien chez autrui, parce que cela me revient. C'est à moi, comme l'enfant captateur. Et du coup, il y a en l'homme une disposition égocentrique qui est, qui s'oppose à l'amour du prochain. Alors ça, c'est très profond, et je crois qu'il ne faut pas trop moraliser avec l'égoïsme. L'égoïsme est une réaction aussi de défense. C'est la peur que nous avons en nous d'être oubliés, d'être les laissés pour compte. D'avoir l'impression d'avoir toujours donné et de n'avoir rien reçu. Et c'est très profond en nous. Parce que ça, c'est vraiment la tentation diabolique. Quand vous regardez comment le péché est entré dans le monde, il est entré par là. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus parlait du démon comme étant l'homicide dès l'origine. À un autre endroit dans l'évangile selon saint Jean, il dit « il est le menteur dès l'origine ». Pourquoi ? Parce qu'il entre dans l'histoire humaine en mentant. Ah, comme ça, Dieu vous a dit, vous a interdit de manger de tous les arbres. Et Ève, mais non, pas. Pauvre garçon, il se trompe complètement. Non, pas de tous les arbres. Simplement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quelle est la réaction de Satan à ce moment-là ? C'est de dire qu'il se montre le malin. Mais vous n'avez rien compris. C'est que Dieu ne veut pas vraiment votre bonheur. Il s'appuie sur quelque chose qui est très profond en l'homme. Vous serez comme des dieux, c'est-à-dire vous serez pleinement heureux. Le mal ne pourra pas vous atteindre. Mais il indique un mauvais moyen. Le chemin qu'il indique, c'est un chemin, non pas d'abord de désobéissance, dans le sens, ce qu'on a essayé d'inculquer à vos chers petits tout à l'heure, mais bon, rassurez-vous, à partir de 7-8 ans, ils n'y croiront absolument plus. Mais c'est la défiance à l'égard de Dieu. De dire, voilà, le démon a réussi lorsqu'il met dans notre cœur la défiance à l'égard de Dieu. Dieu ne veut pas vraiment mon bonheur. Et si nous regardons très précisément et très lucidement chacun de nos péchés, nous nous rendons compte que c'est justement, voilà, nous préférons notre point de vue, alors que si on regarde les choses un peu objectivement, c'est absurde, mais nous préférons notre point de vue, notre petite idée, à ce que Dieu nous a dit. Ça, c'est très profond chez... Et du coup, eh bien, il y a ce phénomène de jalousie, c'est-à-dire de peur d'être oublié, que Dieu ne veut pas vraiment mon bonheur. Parce que la logique, c'est justement de lâcher pour pouvoir obtenir. Et nous voudrions bien lâcher, mais à condition d'avoir déjà ce que l'on nous promet. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si on interroge le bébé dans le ventre de sa mère, lui, c'est bien, personne ne le dérange, il préfère rester là où il est. Alors, je sais bien qu'on montre que si la maman est très angoissée, l'enfant a un peu ressent cette angoisse. Enfin, il y a quand même toute l'épaisseur du liquide amniotique. Si on lui demandait son avis, encore une fois, il préférait rester dans le ventre de sa mère. La naissance, c'est un premier grand traumatisme. Et si l'enfant pleure, c'est bon, parce qu'évidemment l'air s'engouffre dans ses poumons et c'est assez douloureux, c'est paraît-il très douloureux, mais je vous renvoie à votre expérience, mais fondamentalement, c'est ça. Et nous devons, selon la logique de la prière de Saint François d'Assise, pour le coup, il faut que nous acceptions de perdre pour gagner. De mourir pour parvenir à la vie éternelle. Et ça, voilà. Et on est, ligoté par la peur. Le prêtre psychanalyste, Tony Anatrella, a écrit dans les années 80 un livre qui s'appelait Non à la société dépressive, qui est très intéressant. Et je dirais le constat est encore plus. Mais son grand argument, c'était de dire que l'on bloque les jeunes à une vision complètement adolescentrique de la sexualité. Et donc, du coup, on empêche leur développement. Parce que, eh bien, pour passer d'une sexualité adolescente à une sexualité adulte, eh bien, il y a un certain nombre de deuils à accepter. Entre autres, justement, la différence sexuelle qui fait que l'on n'est pas toute l'humanité, mais on n'est que la moitié de l'humanité. Voilà. Eh bien, ce qui est vrai d'un point de vue physiologico-psychologique est vrai aussi d'un point de vue spirituel, par rapport à notre salut. C'est que nous devons accepter de perdre. C'est tout le sens de la parole de Jésus. Le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Alors nous avons tous les, nous avons d'abord l'exemple même du Christ. Nous avons toute la révélation biblique. Nous avons toute l'expérience et l'histoire des saints et de l'Église. Et pourtant, on est là en disant, ah ben oui, mais voilà. On est un petit peu comme le, vous savez, dans la pastorale des Santons de Provence. Lorsque, vous savez, il y a le berger qui a perdu, qui veut pas aller voir le petit, parce que c'est pas qu'il en veut à Dieu, mais enfin, il a perdu son chien. Et alors, il est tout triste. Et puis, le bon Dieu, qui, vous savez, cette nuit-là, qui fait des petits miracles comme des bonnes manières, comme dit l'ange, pour montrer qu'il est heureux lui aussi. D'ailleurs, que le bon Dieu, il est encore plus brave que ce que vous pensez. Et il ressuscite le chien. Et le berger dit à Dieu, mais je te donnerai tout ce que tu veux, tiens, je te donnerai même mon chien si tu me le demandes. Mais tu me le demanderas pas, hein. Bon, mais voilà, mais par rapport à Dieu, on est tous un petit peu comme ça. Donc l'incapacité, c'est justement la conséquence, pardon, de tout ça, c'est l'incapacité à se laisser corriger parce que l'autre ne peut pas avoir raison. Et donc il y a comme un enfermement sur soi et donc aussi un développement de l'agressivité à l'égard du prochain. Voilà pourquoi la jalousie est souvent à l'origine de l'homicide. En tout cas, dans l'histoire du péché de l'humanité, c'est tout à fait ça. À l'origine du premier meurtre, à savoir Abel tué par Caïn, eh bien, il y a la jalousie qu'éprouve Caïn à l'égard d'Abel. Et donc aussi une incapacité à rendre à l'autre ce que je lui dois, ce qui est le principe même de la vertu de justice. La vertu de justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Eh bien, je nie ce droit à l'autre, donc au fond, je nie l'autre dans son existence concrète. D'où la solitude et la tristesse. D'autant plus tristesse qui est renforcée par le fait que, l'orgueil, si je puis dire, on peut s'en vanter, on peut valoriser tout ce qu'il y a de bon en nous, mais personne ne va se vanter d'être jaloux et envieux. D'où aussi les conséquences. Parce que justement, on veut que les autres soient malheureux et on ne supporte pas le bien des autres. Eh bien, c'est tout le domaine des médisances, des calomnies. Saint Thomas d'Aquin dit, vous savez la différence entre calomnie et médisance. La calomnie, c'est dire du mal qui n'est pas vrai. Et la médisance, c'est dire du mal qui est vrai. Et saint Thomas dit, alors on dit, bah oui, donc assez spontanément, on pourrait dire, bah la médisance, c'est moins grave, puisqu'on dit des choses pas bien, mais enfin, c'est vrai. Bon. Et je dis ça, je ne dis rien. Bon. Et saint Thomas d'Aquin dit, c'est plus grave, la médisance. Parce que la calomnie, justement, on peut la réparer, en montrant que c'est pas vrai. La médisance, c'est pas possible parce que c'est vrai. Donc c'est souligné comme quoi, la vérité, moi je dis toujours la vérité, mais il faut que cette vérité soit utile. Comme on dit, il ne s'agit pas de dire toute vérité, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que la vérité qui blesse, ça c'est pas vrai, le péché blesse beaucoup plus que la vérité. Mais quand on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est pas du tout qu'on veut cacher des choses, mais c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Ça vous le sentez très bien dans la pédagogie. Lorsque les enfants posent des questions, lorsqu'ils sont confrontés à tel ou tel problème, il y a une manière justement de leur présenter les choses qui est tout à fait vraie, en ce sens on n'a jamais le droit de mentir, mais de présenter les choses, de présenter une vérité qui soit pour l'instant accessible. Alors, c'est-à-dire il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recette, il n'y a pas qu'est-ce qu'on peut dire à l'enfant à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, il y a simplement cette intelligence du cœur qui fait qu'on sent très bien ce que l'autre peut porter à ce moment-là. Et ça, c'est vrai aussi pour la prédication, c'est quelque chose sur lequel le pape François a pas mal insisté dans sa dernière lettre sur l'évangélisation. Il faut avoir le sens, pour apprendre le latin à Peter, il faut connaître le latin, mais il faut aussi connaître Peter. Sinon quoi, on décourage complètement les gens. Il y a une progressivité, y compris de la révélation, qui fait, on voit très bien Jésus par rapport à ses apôtres. C'est ça qui est aussi, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de solution. C'est qu'à la fois, ce n'est que petit à petit qu'il révèle sa nature, qu'il n'est pas simplement un grand prophète, mais qu'il est le Fils de Dieu. Et parfois, Jésus, avec ses adversaires, est complètement frontal. C'est parfois, quand on lit l'Évangile, on se dit, oh, mais non, mais là, il pourrait se défendre, ou il y a un malentendu. Quand il dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, il pourrait très bien dire, non, mais attendez, ce que je veux dire, c'est comme les disciples découvriront après la résurrection, il voulait parler de son corps. Là, on a l'impression que Jésus, parce que Jésus connaît le cœur de l'homme, et il sait que celui qui ne veut pas entendre, qui s'est endurci, eh bien, ne se laissera jamais toucher. Mais en revanche, avec ses apôtres, eh bien, on voit très bien les trésors, je dirais, de délicatesse, de sens pédagogique que Jésus déploie. Et en amont de tout ça, très bien aussi la pédagogie progressive de Dieu, depuis le premier péché de nos parents, qui petit à petit va amener le peuple d'Israël, puis l'humanité tout entière, à découvrir la grâce du salut qui lui est préparée. Y compris à travers ses échecs, parce qu'on apprend aussi beaucoup de ses échecs, et ses défaites. Voilà. Donc, du coup, je reviens maintenant à la à la jalousie ou à l'envie. Donc elle est source de violence et d'esprit de domination. Ça aussi, la malédiction qui tombe sur nos premiers parents, hein, cette parole aussi un peu mystérieuse. Donc on dit à l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. On dit à la femme, c'est dans la douleur que tu enfanteras. Et voilà, ta convoitise te poussera vers ton mari, vers ton homme, littéralement, et il cherchera à dominer sur toi. Et en fait, ce que Jean-Paul II a montré dans ses catéchèses à propos de ces premiers chapitres de la Bible, c'est qu'en fait, le péché originel, cela devient une logique de convoitise et de domination. C'est que chacun cherche à dominer l'autre. Voilà. Et ça, c'est vraiment la matrice du mal. Ce qui était un rapport de don et de transparence, symbolisé par la nudité, devient un rapport de domination. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est cette pulsion de domination. D'ailleurs, la conséquence de tout ça, c'est on va instrumentaliser l'autre, pardon, et donc on ne le reconnaît plus comme sujet. Et donc cela rend impossible l'amour d'amitié. Un philosophe qui s'appelle Gusdorf disait « La jalousie dégrade l'être en avoir. L'être m'est donné et je dois le respecter et j'en fais un avoir, c'est-à-dire un bien de possession ou de consommation. » Ça, évidemment, on le voit de manière particulièrement forte et caricaturale dans l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi ? C'est de faire un homme une chose. Mais regardez, dans nos relations, très vite, lorsque nous instrumentalisons l'autre par envie, eh bien, nous en faisons une chose. De même, la jalousie ou l'envie suppose une certaine proximité. Ceux qui sont très éloignés de nous, y compris du point de vue social, bon, on peut les jalouser, mais de très loin, parce que ça nous paraît de toute façon complètement inatteignable. En revanche, regardez dans les relations professionnelles, les histoires de bureaux, tout ce qui est les signes extérieurs, je ne sais plus quel homme politique disait, ce qui fascine les hommes, ce n'est pas le pouvoir, mais c'est l'abus de pouvoir. C'est cette capacité à... Dans les ministères, le principe d'avoir une voiture avec chauffeur. C'est des choses à la fois complètement puériles, mais qui sont très profondes en nous. Et cela arrive surtout dans les milieux très cohérents, où la moindre... Alors bon, ça peut être, rééquilibré par une vraie notion de camaraderie qui devrait exister, puisque dans une entreprise, on est là tous dans le même but. Donc ça devrait créer une véritable solidarité. Eh bien, dans cette solidarité, il peut y avoir d'affreuses jalousies, et encore une fois, qui vont porter sur des choses, vraiment des peccadilles. Eh bien, pourtant, ces peccadilles, nous font énormément souffrir, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir tractionner pour avoir, en effet, un bureau, et deux, ça nous rend incapables de communiquer vraiment avec les autres. Et quand on est libre par rapport à ça, y compris dans le monde professionnel, de cette façon, on est sur le coup pour telle ou telle chose, on pourra se faire avoir, si je puis dire, entre guillemets, mais on aura quand même une réputation qui fera que, je crois qu'on repère très vite dans des milieux, spécialement des milieux qui insistent particulièrement sur la performance, eh bien, on saura très bien, très vite, le type qui se comporte bien. Voilà, c'est ça qui est en jeu. Et puis surtout, c'est un manque de foi, en ce sens où... je nie du coup ma situation privilégiée de fils de Dieu. Et ça, c'est la thérapie à mettre en œuvre, et c'est mon troisième point. La thérapie à mettre en œuvre, c'est justement de découvrir ou de redécouvrir mon identité chrétienne. Et que l'essentiel m'est déjà donné. L'essentiel, c'est d'être fils de Dieu. Et tant que cela n'a pas plus de poids, y compris d'un point de vue psychologique, dans ma vie, que le fait, encore une fois, d'avoir telle position dans l'Église, dans la société, dans telle association... eh bien, je serai toujours malheureux et envieux. Mais j'ai rien à envier, parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur qui puisse m'arriver que celui qui m'est arrivé le jour de mon baptême. Et que toute la vie sur terre m'est donnée pour permettre à cette vie divine qui m'a été communiquée de grandir et de prendre toute sa place. Un jour, André Frossard demandait à Jean-Paul II, mais quel est le plus grand danger pour l'homme d'aujourd'hui ? Et Jean-Paul II dit, mais c'est de toujours, c'est le péché. C'est ça le grand danger pour moi. Alors, la thérapie à mettre en œuvre en quelques minutes, eh bien, c'est justement prendre le contre-coup. C'est par exemple lutter contre l'agressivité et la tristesse qui sont conséquences de l'envie et de la jalousie. Alors, je vais parler de la colère, comme tout se... demain, comme vous voyez bien que tout se tient. Mais il y a très concrètement à ne pas se mettre en situation, puisque là aussi, un des principes de la théologie morale, hein, c'est qu'il faut éviter le péché, mais qu'il faut aussi éviter les occasions de péché. On se connaît suffisamment. Voilà, si vous êtes gourmand pour vous parler des choses que vous avez déjà vues, eh bien, c'est suicidaire d'aller vous balader vers midi devant une boulangerie. Pourquoi c'est suicidaire ? Parce que, alors là, il n'y aura pas péché. Enfin, je dirais, il n'y aura pas péché. Le péché ne sera pas le fait d'entrer dans la boulangerie, parce que là, vous serez dans une telle logique, dans un tel engrenage, que votre liberté est quasiment annihilée à ce moment-là. Mais votre liberté, elle intervient à quel moment ? Le fait de décider de passer devant la boulangerie. Et si vous ne pouvez pas ne pas passer devant la boulangerie, parce que ce serait déraisonnable de faire un détour, eh bien dans ce cas, il faut croire que la grâce de Dieu vous aidera dans cette situation vraiment critique. Voilà. Mais le péché peut être bien souvent de nous mettre en situation de... Hein, pour tout ce qui est de l'ordre du désir, ce qu'on appelle la concupiscence, hein, c'est... comment dire voilà, il faut pas... Il y a certains péchés qu'il faut affronter frontalement, en effet, tout ce qui est de l'ordre de l'irascible, entre autres l'envie. En revanche, tout ce qui est de l'ordre du désir concupiscible, il faut le fuir. Vous avez tous lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Qu'est-ce que Le Petit Prince doit faire tous les matins ? Première action de la journée. Non, avant même ça. Qu'est-ce qui arrive tous les matins sur la petite planète ? Non, avant même ça. Voilà, il y a trois graines de baobab qui arrivent tous les matins. Et donc tous les matins, il faut qu'il prenne sa pelle et qu'il expulse les graines de baobab. Un, c'est pas bien compliqué comme travail. Deux, c'est pas passionnant. Mais s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe ? Les graines germent, le baobab grandit et fait éclater sa petite planète. Voilà. Eh bien, tout ce qui est de l'ordre de la concupiscence, c'est de ce type-là. C'est beaucoup plus facile d'agir en amont. Et donc, pour nous, c'est de lutter... Pour lutter contre l'envie, ben, lutter contre l'agressivité et la tristesse. Et donc, ça veut dire faire des efforts de douceur et de joie. Alors, j'en parlerai de la douceur spécialement, toujours à l'aide de Saint-François de Sales, mais à propos de la colère, mais aussi la douceur. Ensuite, deuxième point qui me paraît très important, c'est de demander dans la prière à être renouvelé dans la foi. Pourquoi ? Eh bien, parce que... Dieu m'a assigné une place dans son plan providentiel. Et que ma responsabilité à moi, ce n'est pas ce que les autres ont comme moyen, mais ce que moi je fais de ma vie. Et cette responsabilité, elle est inaliénable. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire, mais le Christ, donc après son ascension, enfin au moment de son ascension, remonte vers son Père, et donc c'est un mouvement ascendant, et dans ce mouvement ascendant, il croise l'ange Gabriel, qui lui était dans un mouvement descendant, pour aller faire je ne sais pas quoi, envoyé par Dieu sur la terre. Bon. Et Gabriel dit, ah, fils du patron, bon, vous allez faire quoi là ? Enfin, vous venez d'où ? Il n'était pas trop tenu au courant. Bon. Jésus lui dit, bah, tu vois cette petite lumière là à Jérusalem ? Bah, ce sont mes disciples qui sont réunis au Cénacle, et qui attendent la venue du Saint-Esprit, et à partir de là, eh bien, ils iront évangéliser le monde. « Ah ouais ?» dit l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel, qui était un peu sceptique, qui avait dû faire ses études à la Sorbonne à Paris, dit « Ben oui, d'accord, mais si ça marche pas ?» Et là, même Jésus était complètement interloqué, il dit « Ben si ça marche pas, ben j'ai pas de plan B. » Ah bon, le fait que vous soyez là, c'est que ça marche. Mais je veux dire par là, c'est que nous avons chacun notre place dans le plan de Dieu, et que personne ne peut faire notre travail. Si tel ou tel travail, matériellement, quelqu'un peut le faire à notre place, mais répondre à notre vocation, eh bien, ça appartient qu'à nous. Et toute notre, je dirais, notre joie et notre souci, c'est de répondre à notre vocation. Parce que c'est ça qui compte, c'est là-dessus qu'on sera jugé. Et qu'ensuite, alors ça c'est peut-être aussi un peu la grâce du confesseur, mais vous savez, c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui nous agacent. Hein, parce qu'ils réussissent tout, parce que... Ben, la grâce du confesseur, c'est pas dire, ah non, mais en fait, vous savez, ils sont beaucoup plus malheureux. C'est pas du tout ça. Mais c'est de se dire, ben, je veux dire, vraiment, je peux vous le dire et en témoigner, tout le monde a ses combats. Tout le monde a ses difficultés. Un jour, André Malraux raconte ça au début de ses anti-mémoires. André Malraux a demandé à l'aumônier de la brigade Alsace-Moselle, Alsace-Lorraine, pardon. Donc Malraux était tout à fait agnostique et fasciné par le religieux. Et il demande un jour à l'aumônier, mais qu'est-ce que la confession vous a appris sur l'homme ? Et l'aumônier lui dit, bah, vous savez, c'est tellement mystérieux parce qu'il y a la grâce, il y a Dieu. Mais enfin, deux choses essentiellement. Les hommes sont beaucoup plus malheureux qu'ils ne le disent. Et il n'y a pas de grande personne. Et c'est extrêmement profond. Alors ça ne veut pas dire que... mais voilà, tout le monde a ses combats, tout le monde a ses difficultés. Et au fond, il n'y a que Dieu qui puisse nous consoler et nous aider. Hein, même si l'Église met à notre disposition... Mais justement, les moyens que l'Église met à notre disposition, c'est Dieu lui-même. Hein, c'est cette vie d'amitié avec le Christ. Et donc, je vous assure, il n'y a vraiment pas de quoi jalouser. Si je ne vais pas dire, ah, les autres, ils sont bien malheureux, alors ça me rend un peu moins malheureux. Ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais voilà, il n'y a pas de réussite éclatante. Madame de Staël, je crois qu'il disait la gloire et le deuil éclatant du bonheur. Bon, mais voilà, même des gens qui semblent avoir tout réussi, eh bien voilà, Dieu a d'abord permis qu'il y ait des échecs dans leur vie et qu'ils les font beaucoup souffrir. Et justement pour leur rappeler que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est justement d'être renouvelé dans la foi. Et donc de chercher à accomplir notre vocation sans se préoccuper pour savoir si d'autres remplissent la leur. Et c'est ça ce que nous appelons vivre pour Dieu seul. Alors c'est ce qu'on dit pour la vie religieuse, hein, le religieux ne vit que pour Dieu seul, mais c'est le fait de tout baptiser. Seul Dieu voit les cœurs et les reins. Seul Dieu est témoin des combats et voit mes intentions. C'est aussi très bien parce que, bien sûr, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il ne s'agit pas simplement de se préoccuper des bonnes intentions que l'on a. Il faut aussi s'occuper des conséquences que ça a. Mais il n'empêche que nous sommes jugés sur nos intentions. Et Dieu seul les voit. Et que parfois on échoue et tout le monde vous tombe dessus. Ben, Dieu, lui, voit la vérité de notre cœur. C'est pour ça que c'est beaucoup plus grand de vivre en chrétien une défaite qu'une victoire. Parce qu'une défaite, là, il n'y a plus personne pour, justement, tout le monde vous tombe dessus. Et quand on a, comme on dit, sa conscience pour soi, eh bien c'est qu'on a Dieu pour soi. Enfin, en ce sens où ben, on a fait tout ce qu'on a pu, on a échoué, mais pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas le résultat, c'est le cœur qu'on y met. Et je dirais, on a beaucoup plus de mérite à persévérer, même quand il n'y a pas, y a pas de réussite, hein, ou à entreprendre quand il n'y a pas d'espérance, pour reprendre l'expression de Guillaume d'Orange. Mais là, il y a quelque chose de très très profond. Mais pourquoi on n'est pas affecté par ça? Parce qu'on sait que l'essentiel, encore une fois, nous est gagné. L'essentiel, c'est d'être fils de Dieu, et nous le sommes depuis le jour de notre baptême. Et donc, nous pouvons en tout cas, alors là, je descends d'un cran, mais d'un point de vue psychologique, passer de l'envie à l'émulation. Hein, c'est-à-dire que quand on a un bien spirituel que l'on constate chez les autres, eh bien, on se dit, je vais l'acquérir pour moi. Oh là, il y a un tel qui a donné sa vie pour le Christ, oh là, si ça pouvait m'arriver, une chose pareille. Vous voyez, c'est donc transformer la jalousie en émulation. Alors, comptez pas trop là-dessus, parce que la grâce d'une martyr, c'est très particulier. Il faut vraiment que cela vous soit communiqué et donné. Mais voilà, dans la conversion de saint Ignace de Loyola, il y a eu ça. Hein, il a commencé à lire la vie des saints, après avoir lu l'Évangile. Il a dit, quand même, saint Dominique a fait ça, il faudrait que j'en fasse autant. Saint François d'Assise a fait ça, il faudrait que j'en fasse autant. Saint Thérèse d'Avila dit, au début de la vie religieuse, pas pour s'y maintenir, mais au moins pour commencer et rester fidèle dans les premiers mois, il faut au moins un peu de fierté. C'est l'importance de la fierté chez les Espagnols. Mais parce que là, je vais pas arrêter tout de suite, je vais avoir l'air de quoi. J'annonce à tout le monde que j'entre au noviciat, et puis au bout de 2 mois, je reviens avec mon petit baluchon, on aura l'air de quoi. Bon, évidemment, on peut pas tenir toute une vie religieuse comme ça, s'il n'y a pas d'autre motif. Mais voilà, si c'est pas sa vocation, on l'accueille, on l'accepte bien humblement, et puis le bon Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Voilà, mais voilà, donc en tout cas, c'est une stratégie qu'on peut mettre au point, c'est de passer de la jalousie à l'émulation. Ensuite, autre point important, enfin qui peut nous aider, c'est faire un effort de bienveillance et de charité, hein, par un amour joyeusement ouvert aux autres, hein, ce qu'on appelle l'amour de bienveillance. L'amour de bienveillance, c'est pas éprouver à l'égard de l'autre une grande amitié spontanée. Ça, c'est de l'ordre de la sympathie et de l'antipathie, c'est naturel, mais c'est pas vivre selon la grâce. C'est de vouloir le bien. Et agir activement au service de l'autre. Et c'est comme ça qu'on aime ses ennemis. Le pape Paul VI définissait la charité comme l'espérance active de ce que l'autre peut devenir grâce à mon aide. Voilà. Dès que je rencontre quelqu'un, il m'est confié, j'en suis responsable. Et si je me mets à son service, je suis sauvé de l'envie. Oui, donc il n'y a pas du tout à se dire, mais est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Ça, c'est de l'ordre du psychologique. Dès que quelqu'un entre dans notre champ de vision, il suscite en nous ou de l'indifférence, ou de la sympathie, ou de l'antipathie. Bon, ça, c'est le donné psychologique brut, passionnel, pour reprendre la distinction que j'ai posée tout à l'heure. Mais qu'est-ce que je vais en faire en tant que chrétien? Voilà. Et là, j'ai aussi un acte de foi à poser. Si le bon Dieu l'a mis sur ma route, c'est pas par hasard. Pour reprendre l'expression de François Mauriac que vous trouvez en première page du roman pour jeunes, là, Le Prince Éric, on mérite toujours nos rencontres. Ou pour reprendre l'expression de Saint-Ex, hein, on est responsable de ce qu'on apprivoise. Il y a des gens dont la vie a été bouleversée par la rencontre d'un chrétien, et le chrétien en question n'en a même pas eu conscience. Alors l'exercice de la foi nous conduit à la vérité et donc à l'humilité. Et ça nous pousse aussi à ne pas survaloriser les moyens. Parce que très souvent, nous sommes surtout jaloux, non pas des qualités morales de l'autre, en disant « mais quelle belle âme », mais surtout de ses biens matériels. Et on crève de jalousie. Et évidemment, notre société fonctionne beaucoup sur l'éveil du désir. Alors encore une fois, le désir est éminemment positif, c'est le principe même de la croissance et de l'éducation, donc d'éduquer son désir, que ce soit dans l'éducation ou dans la vie spirituelle. Mais il est évident que notre société, qui repose uniquement sur la publicité, s'entend très bien pour exacerber le désir. Et le faire porter sur des objets qui ne le vaut pas. Or, on sait très bien que, en survalorisant les moyens ou les biens temporels, comme on dit parfois, là, si j'avais tout l'argent que je mérite, non, bah justement, j'ai les moyens qu'il faut pour accomplir ma mission. Et c'est ça qui nous donne de lutter contre notre moi égoïste et inquiet. Mais voilà, il ne faut pas trop lui en vouloir. Encore une fois, c'est une conséquence du péché originel. Il faut plutôt en avoir pitié. Mais lui dire, bah écoute, c'est pas ce que tu ressens comme égoïsme et comme inquiétude qui va diriger ma vie. Moi, je refuse de me laisser mener. Dieu se fiche, pour revenir à la chose du concupiscible, mais Dieu se fiche complètement que vous preniez un carré de chocolat, même un vendredi, voire un vendredi de carême. Ce qu'il veut pas, c'est que le bout de chocolat vous mène par le bout du nez, justement. Parce que vous valez beaucoup mieux que le carré de chocolat. C'est ça l'ascèse. L'ascèse, c'est de découvrir la véritable hiérarchie des valeurs. Et donc, c'est vraiment une œuvre de libération en nous. C'est comme ça qu'on se libère de l'inquiétude, comme de la peur aussi. Le meilleur moyen de lutter contre la peur, c'est de reconnaître que l'on a peur, et puis on y va quand même. Et enfin, et je terminerai par là, eh bien, en plus de l'importance de la communion des saints, nous rappeler que, selon la phrase de Montesquieu, pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes, mais avec eux. Ah ben ça, c'est l'expression même, je dirais, sécularisée, mais de la communion des saints. Le seul qui soit au-dessus de nous tous, c'est Jésus, qui est notre tête, et lui-même s'est mis à nos pieds pour nous laver les pieds. Voilà, il se soumet à nous pour nous faire grandir. Alors, on n'a plus beaucoup, maintenant qu'on a le choix pour les lectures d'évangiles, on a assez rarement des fiancés qui choisissent le texte de saint Paul, Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là? Ces femmes, soyez soumises à vos maris pour les faire grandir. Comme vous vous soumettez à vos enfants, quand vous savez, ils ne peuvent pas voir le 14 juillet parce qu'ils sont trop petits, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous les prenez sur vos épaules. Vous vous soumettez à vos enfants pour les faire grandir. Et pourtant, ils ne vous viendraient pas à l'idée de dire que voilà, vous êtes plus petits que vos enfants. D'autant plus qu'à la phrase suivante, il y a Saint Paul qui dit « Marie, aimez vos femmes ». Donc ça veut dire qu'on est dans un mystère d'amour mutuel et donc de soumission mutuelle pour faire grandir l'autre. Donc grandir dans l'amour de bienveillance et vouloir que la gloire de Dieu se réalise en moi et dans tous ceux qui m'approchent. Et c'est comme ça, et ça c'est un exercice que nous pouvons faire tous les jours et qui au début nous mortifie et peut même être crucifiant, mais c'est de nous apprendre à nous réjouir du bien. C'est parfois très douloureux, je finirai là-dessus. C'est parfois très difficile, y compris pour les biens spirituels. Je ne sais pas si vous connaissez le cas du père Lyonnais, c'était un père jésuite qui est mort d'ailleurs relativement jeune, dans les années 50, et qui était une âme mais passionnée, spécialement pour l'éducation. Il a été directeur d'un gros collège jésuite, donc à l'époque c'était quand même quelque chose, et il est tombé gravement malade, et il a dit le pire du pire, vraiment pur produit de l'éducation jésuite à la grande époque, donc une soumission totale à la volonté de Dieu, une obéissance périndée à cadaver, enfin comme un cadavre, mais il m'a dit, parce qu'on a eu ses notes spirituelles, et vraiment il dit entre autres, ben, quand on est malade, il y a quand même des tas de choses dont on se rend compte, et ceux qui viennent vous voir, même avec toute leur bonne volonté, etc., s'ils ne sont pas passés par là où vous êtes passés, ben, il y a quand même des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et c'est très mortifiant. Mais il dit, le pire, c'est quand vous avez un confrère qui arrive pétant de santé et qui a pris votre place. Et en plus, vous savez qu'il fait quand même beaucoup moins bien que vous, parce que voilà, quoi, vous avez quand même des échos. Et de fait, encore une fois, je dis, le père Lyonnais était un... Alors on peut se dire, bah, il est mort à 40 ans, c'est bien dommage. Je dirais, pour Dieu, rien n'est dommage. Hein. Et quand on voit surtout le rayonnement, parce que bon, il est moins connu aujourd'hui, mais ses écrits ont été très très répandus et vraiment ont apporté pour le coup à des générations de malades un grand grand soutien. Mais c'est vrai que c'est très mortifiant. Et ben là, pour apprendre à se réjouir, eh bien, il faut vraiment beaucoup compter sur la grâce. Hein? Mais c'est ça qui compte, parce que si on fait la somme de tout, ce qui compte, c'est que, un, je me sauve, je sauve mon âme, et deux, que la gloire de Dieu soit manifestée. Et plus cette gloire de Dieu est manifestée à travers mes pauvres moyens, plus je suis assuré de mon salut. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça qui vous donne aussi une liberté totale, ce qui fait que vous n'êtes plus en concurrence avec les autres, mais vous êtes justement libéré de cet esprit de concurrence. Non pas qu'il n'y ait pas parfois une certaine une nécessaire émulation, mais je dirais que ça, c'est bon pour un temps. À partir d'un certain moment, si je puis dire, bah, c'est bon, on n'a plus rien à prouver, on sait que l'essentiel est gagné, et donc bah, on devient vraiment libre dans nos relations avec les autres, et on peut faire grandir les autres. Certains peuvent en profiter, certains, je dirais, peu importe. Hein, comme je finirai avec saint Paul, hein, il dit lui-même, certains évangélisent pas du tout par amour du Seigneur, mais pour leur propre gloire, l'essentiel, c'est que Jésus-Christ soit annoncé. Voilà, donc nous en terminons là avec la jalousie et nous verrons demain donc la colère et la paresse.